Dans notre région, tous n'ont pas accès aux services de prévention et de soins en cancérologie. C'est une question au cœur des préoccupations de l'Oncopole à Toulouse, Isabelle Duchet.
Oui, afin de répondre aux inégalités sociales et territoriales face au cancer, l'Oncopole vient de créer l'unité PRIC pour prévention et réduction des inégalités face au cancer. Nous en parlons ce matin avec le docteur Cyril Delpierre, responsable de la nouvelle unité. Bonjour docteur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors c'est vrai que les cancers, c'est quand même la première cause de mortalité prématurée en France. Le centre Gustave Roussy donne ce chiffre de 66% des patients atteints d'un cancer qui sont aujourd'hui guéris. Mais évidemment, c'est une moyenne et certains cancers sont plus foudroyants que d'autres, nous le savons. De plus, et c'est l'objet de votre étude et de votre travail depuis de nombreuses années, certains patients n'ont pas les mêmes accès au dépistage et aux soins que d'autres. Et vous vous intéressez depuis de nombreuses années à ces inégalités face au cancer. Quel est votre constat ?
Le constat, c'est, si je reprends par exemple votre pourcentage de 66% qui guérissent, en fait, c'est effectivement une proportion qui est correcte. La question que nous, on va se poser, c'est celle de... c'est une moyenne. La question qu'on va se poser, c'est celle de ce pourcentage au regard des caractéristiques sociales et territoriales des individus. Et quand on regarde cette proportion de guérir d'un cancer en fonction de là où on habite et en fonction des conditions de vie qui sont les nôtres, on s'aperçoit qu'il y a des grosses différences très marquées avec une moins bonne chance de guérison, par exemple, chez des personnes qui sont socialement défavorisées ou qui vivent dans des territoires qui sont plus défavorisés. Et donc nous, on s'intéresse à essayer de comprendre pourquoi, dans le but de développer des actions qui réduisent ces inégalités.
Alors, vous avez parlé, docteur Cyril Despierres, d'inégalités territoriales. Il y a aussi les inégalités sociales. On imagine, quand on parle d'inégalités territoriales, de l'accès aux soins en se disant on habite au fond de la campagne, au fin fond du Gers ou de l'Aveyron, et là, on est loin d'un médecin. En fait, ce n'est pas seulement ça.
Ce n'est pas seulement ça. En France, quand on parle d'inégalités, quand on parle de santé, on fait souvent l'analogie avec le soin. On a un signe égal entre santé égale soin. C'est évidemment un déterminant important de la santé, mais ce n'est pas le seul et ce n'est pas le déterminant le majoritaire et le principal déterminant de l'état de santé. Le principal déterminant de l'état de santé, ce sont les conditions de vie, ce sont les comportements de santé qui sont finalement en dehors du système de soins. Donc quand on parle d'inégalité sociale de santé, il faut aussi se poser la question des facteurs en dehors du système de soins qui peuvent générer ces inégalités. Et donc, il y en a beaucoup, on pourra en reparler. Et le soin est un des déterminants et pas le seul. Et deuxième point, quand on parle de territoire, évidemment, il y a des inégalités territoriales. Hein. Quand on vit loin du système de soins, c'est moins facile d'être pris en charge. Mais il y a aussi une question à se poser sur les personnes qui vivent dans ces territoires et la capacité qu'elles ont ou pas à pouvoir utiliser le système de soins, se rendre mobile pour pouvoir aller là où l'offre existe.
Est-ce que vous voulez dire, dans ce cas-là, dans ce contexte d'accès aux soins, c'est une question de moyens ?
C'est, sur l'accès aux soins, c'est une question de moyens. C'est aussi une question de moyens de manière générale. Hein. Vous, comme nous, on a tous besoin de moyens, mais pas uniquement. C'est aussi une question de, je dirais, de réflexion et de concept. Il faut vraiment avoir en tête ces inégalités sociales de santé. Il faut réfléchir en termes d'écart entre les groupes et pas forcément en moyenne. Votre chiffre de 66% en est la preuve. On parle beaucoup en moyenne. Les derniers résultats sur le tabagisme sont plutôt très bons.
Oui,
il y a une
bons.
Réduction de la consommation de tabac, mais quand vous regardez la photo en fonction des groupes sociaux, vous n'avez pas la même image. Et les groupes sociaux moins favorisés ont moins réduit leur consommation de tabac que les groupes les plus favorisés. Donc en termes d'inégalité, donc d'écart entre les groupes, les choses ne sont pas aussi roses qu'il n'y paraît. Et donc je pense qu'il faut aussi qu'on change notre focale et qu'on réfléchisse en termes d'écart et pas uniquement en termes de moyenne.
D'accord. Sur cette question de prévention, puisque vous disiez que la santé, ça n'était pas seulement le soin, quelles sont les inégalités que vous repérez, vous, docteur Delpierre ?
Face au cancer, on a trois grands types de mécanismes qu'on identifie. On a des expositions physiques et chimiques, l'air qu'on respire, la qualité de la nourriture, la qualité par exemple de les expositions professionnelles, pardon, la qualité de l'eau, etc. Donc ça, c'est des éléments qu'on va mettre dans le physico-chimique. Il y a aussi des éléments comportementaux, la consommation d'alcool, la consommation de tabac, différents types d'alimentation. Puis on a aussi des facteurs qu'on travaille de manière, je dirais, un peu plus nouvelle, qu'on appelle psychosociaux, qui peuvent être liés au stress biologique, qui peuvent être aussi impliqués dans ces mécanismes. Et c'est l'ensemble de ces expositions qui sont distribuées de manière différente en fonction de la vie que l'on a. la probabilité d'être exposé à des carcinogènes, par exemple dans votre travail, n'est pas la même.
Pardon, à des quoi ?
On va appeler carcinogènes, donc des molécules qui peuvent générer ou provoquer des cancers. Elle n'est pas du tout la même lorsque l'on est ouvrier ou lorsque l'on est chercheur comme moi dans un laboratoire où on est moins exposé que si on travaille dans une usine, par exemple, chimique à ces carcinogènes, par exemple.
Et donc il y a la profession entre en jeu dans ces inégalités.
Quand on mesure ces inégalités par différents facteurs, effectivement, la profession est un des facteurs importants. Il y a aussi les revenus, parce qu'en fonction des revenus, la capacité que l'on a à pouvoir, par exemple, s'acheter des aliments plus sains, le fait de pouvoir avoir des logements moins exposés à différents problématiques, température, isolation, etc., est important. Il y a aussi le niveau d'éducation. Le niveau d'éducation étant un facteur important pour arriver à saisir les informations, par exemple, médicales ou de santé, les utiliser, les capter et en faire quelque chose en termes de comportement. Tous ces éléments-là sont importants dans les inégalités.
Est-ce que tous les cancers sont de la même manière concernés par ces inégalités sociales et territoriales ?
Non. Vous allez avoir des cancers qui vont être plus fréquents dans les groupes socialement défavorisés, donc des cancers qu'on appelle de la sphère ORL, donc des poumons, du larynx, du pharynx, de l'estomac. Et vous allez avoir des cancers, ça peut paraître paradoxales qui vont être plus fréquents chez les personnes qui sont plus favorisées. Par exemple, pour le cancer du sein, on le trouve aussi pour le mélanome ou le cancer de la prostate, qui peuvent être liés à différents types de mécanismes. Pour les cancers qui sont plus fréquents chez les personnes qui sont plus favorisées, le dépistage, par exemple, est un facteur extrêmement important. Plus vous vous dépistez, plus vous avez de risques ou de chances qu'on diagnostique quelque chose, sauf qu'on va le diagnostiquer.
Quand on cherche, on trouve.
Voilà, mais sauf qu'on va trouver quelque chose de très précoce. Et quand il s'agit des cancers, découvrir un cancer de manière très précoce, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et si je reprends ce que vous disiez au début en termes de taux de guérison, les taux de guérison sont vraiment très, 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 très élevés quand on prend un cancer à un stade précoce.
Et oui, bien sûr. Dans vos recherches, vous avez voulu donc résorber, et vous souhaitez résorber ces inégalités sociales et territoriales. Et donc, il y a la création de cette unité, PRIC, Prévention et réduction des inégalités face au cancer. Est-ce que c'est une première en France et en quoi ça l'est ?
Alors, il y a des équipes qui s'intéressent aux inégalités sociales de santé. Il y en a peu dans le champ de l'épidémiologie en France. On a la chance d'avoir ce type d'équipe à Toulouse. Et donc, depuis très longtemps, on travaille aussi dans le champ de la cancérologie. Il s'avère que ces forces, elles étaient assez éclatées, pas structurées au sein d'une même unité. Et donc, effectivement, au sein de l'Oncopole, on a pensé pertinent et intéressant de proposer une structure. Et au sein des centres de lutte en France, il n'y a pas d'autres unités dédiées spécifiquement à l'analyse des inégalités sociales face au cancer et à leur réduction. Donc ça, en ce sens, c'est une nouveauté. Il en existe dans d'autres pays européens qui se sont structurés pour faire face à cet enjeu. Et donc finalement, avec cette unité, on se met à niveau de ce qui peut exister dans d'autres pays européens.
Et ça vous permet de vous inspirer justement de ces modèles européens ?
Exactement, ça nous permet de nous inspirer de ces modèles. C'est aussi pour certains d'entre eux des collègues avec qui on travaille depuis de longues années. Et donc ça nous permet effectivement de pouvoir avoir des ressources similaires, une capacité à pouvoir travailler en commun avec ces différentes équipes et donc finalement d'essayer de réduire ces inégalités.
Docteur Cyril Delpierre, on a l'impression quand on vous écoute qu'en fait vous avez déjà tout compris, vous avez déjà déterminé toutes les inégalités sociales et territoriales qui existent face au cancer. En quoi ce centre de prévention et de réduction de ces inégalités face au cancer qu'est-ce qu'il va apporter de plus finalement ?
L'objectif de cette unité, c'est de s'assurer de l'équité des prises en charge. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des inégalités. Je vous en ai parlé. La question, c'est de réduire ces inégalités et donc d'offrir, de permettre à tous et toutes d'avoir une prise en charge équitable. Donc ça c'est pas rien pour nous tous. Donc ça, c'est l'objectif. Et donc effectivement, on a compris des choses, mais on n'a pas tout compris. On a compris certains facteurs de risque de cancer, mais pas tous. Et une fois qu'on a un diagnostic de cancer, un enjeu, c'est de s'assurer que la prise en charge est la même pour chacun d'entre nous. Et là, on va pouvoir, avec une unité comme celle-ci, travailler avec des collègues cliniciens pour réfléchir à des organisations, des propositions de services qui vont permettre de pouvoir réduire ces inégalités, faciliter l'accès à ce qu'on appelle des soins de support, permettre de s'assurer que l'accès à l'innovation thérapeutique est la même, quelles que soient nos caractéristiques sociales et quels que soient les endroits où, l'endroit où on habite. Donc tous ces éléments sont particulièrement importants. Et je dirais juste aussi un dernier point, hein. C'est important aussi de mesurer ces inégalités, parce que si vous ne les mesurez pas, elles n'existent pas.
Ah oui, bien sûr.
Premier moyen de montrer, de pouvoir travailler à la réduction des inégalités, c'est d'être en capacité de les mesurer.
Ah oui. Est-ce que vous avez d'autres modèles à l'étranger, en dehors des pays européens, qui vous permettent d'avancer sur ce chemin ?
Il y a aux États-Unis, il y a des collègues dans d'autres pays. On parlait en aparté tout à l'heure d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, ils ont aussi effectivement des cohortes de très longue date avec cette logique d'aller travailler sur les inégalités sociales. Donc oui, il y a des pays dans lesquels la thématique des inégalités sociales est forte. Nos collègues du Royaume-Uni ont effectivement beaucoup d'équipes qui travaillent sur cette thématique-là. Et donc, on est en connexion dans le monde de la recherche avec ces équipes pour pouvoir partager nos expériences et avancer ensemble.
Et très concrètement, sur quelles compétences vous allez pouvoir vous appuyer ?
On a des compétences en local au sein de l'INSERM. Hein. Je suis un chercheur INSERM, donc au sein de l'INSERM, on a des équipes qui travaillent on a une équipe qui travaille spécifiquement sur les inégalités sociales de santé en Toulouse. On a des personnes qui sont dans des registres de cancer, donc qui permettent de surveiller les cancers sur des territoires. On a aussi des collègues cliniciens qui sont clairement investis pour pouvoir réduire les inégalités sociales, puisqu'ils les constatent dans la prise en charge de leurs patients. Et donc, c'est ce mélange de compétences qui nous permet de structurer l'unité. Et donc, d'accord, dans l'unité, on va être, pour commencer, 8 personnes avec des chercheurs, des spécialistes de la surveillance des cancers pour pouvoir commencer à travailler.
Et est-ce que le rôle, un des rôles de l'unité PRIC, c'est aussi de faire des préconisations, de faire des propositions, et notamment au gouvernement, aux élus locaux ?
Oui, en tout cas, à titre personnel, c'est mon espoir. Donc, premier point de mesurer les inégalités sociales, ce serait déjà une chose importante qu'au sein de l'Oncopole, on puisse être en mesure de regarder quelle est l'évolution en termes de survie, de récidive, etc., au regard des caractéristiques sociales des individus, pour pouvoir déjà alimenter et informer, y compris nos décideurs, et ensuite proposer des prises en charge qui puissent être après étendues au niveau national, dans d'autres centres que les centres toulousains, et comme je le disais au début, aussi ailleurs que la France, si on est en mesure de montrer que certaines des propositions qu'on fait fonctionnent.
Une proposition que vous avez au fond de votre cœur et que vous aimeriez être mise déjà en place dans les prochaines années ?
Il y en a plusieurs. Je vais prendre un exemple d'un projet en cours sur le dépistage. On travaille avec d'autres collègues français et d'autres disciplines que l'épidémiologie, hein, notamment en psychologie, mais aussi avec des associations de patients, à travailler dans des quartiers prioritaires de la ville de Lyon avec des personnes, avec des habitants et des habitantes, pour pouvoir développer des interventions qui favorisent le dépistage des cancers. On sait que dans certains quartiers, c'est plus difficile, le dépistage est moins élevé, et donc on veut travailler avec les populations concernées pour développer des interventions qui permettent de faciliter ce dépistage. Et l'idée que c'est que si ça fonctionne dans ces territoires à Lyon, l'idée c'est d'étendre ça à d'autres territoires, je vais aller jusqu'au bout, à l'échelle nationale. Donc, oui. Ce sont typiquement des types d'interventions, on parle de recherche interventionnelle, qui ont pour but d'être étendues si elles fonctionnent,
si elles
améliorent factuellement le dépistage.
Oui, le but, ce n'est pas d'en rester à la recherche. Mais
exactement.
Non,
le but, c'est de traduire ça en résultats qu'on appelle probants pour ensuite pouvoir les utiliser par ailleurs et les étendre.
Puissiez-vous être entendu. Merci, docteur Cyril Delpierre. Je rappelle que vous êtes responsable de la nouvelle unité PRIC qui vise à prévenir et réduire les inégalités face au cancer.
Merci beaucoup. Bonne journée.